Tu joues à des jeux de société en famille? Est-ce que chez vous aussi ça tourne au vinaigre ou est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ton enfant est mauvais perdant? Est-ce que tu devrais le laisser gagner ou lui apprendre à perdre? En fait, c'est à ces questions-là que je réponds dans cette émission. Alors, si ça t'intéresse, prends un petit café puis reste à l'écoute. Là, on est samedi soir. Toute la famille est là, on se rassemble pour passer un bon moment ensemble. On sort un jeu de société, puis là, bam! Les enfants, ça se met à chialer, à rechigner quand ça va pas comme ils veulent. Et là, le petit se met à lancer des pions parce qu'il vient de se faire doubler. Bref, ce qui s'annonçait être un bon moment en famille devient tout à coup un moment de stress et d'exaspération pour tout le monde. Effectivement, jouer à des jeux de société en famille, bien que ce soit un moment privilégié, en plus de renforcer les liens familiaux, c'est aussi un grand moment pour apprendre. Apprendre à attendre son tour, apprendre à gagner, mais aussi et surtout apprendre à perdre. C'est avec ces objectifs-là en tête que tu devrais, en tant que parent, envisager ce moment-là. Et ça, c'est tout un apprentissage. Il y a des périodes difficiles lorsque ça ne va pas comme on veut, mais déjà, si tu vois ce moment-là non pas seulement comme un divertissement, ou du moins le temps que tes enfants développent leurs compétences et leurs habiletés à jouer à certains jeux, ça va faire en sorte que tu vas recadrer tes attentes à un niveau qui est beaucoup plus réaliste en fonction de tes enfants. Alors, voici quelques points que tu as avantage à garder en tête pour que le moment soit le plus agréable possible. Le premier point, les jeux adaptés. Avant toute chose, là, le premier point important à considérer, c'est de proposer à nos enfants des jeux qui sont appropriés à leur stade de développement. Est-ce que ton enfant est patient ou est-ce qu'il est impatient? Est-ce qu'il sait compter ou pas? Donc, pour les petits qui n'ont pas encore développé beaucoup d'habiletés, ben c'est souhaitable de d'abord les initier à des jeux comme Serpent-Échelle ou la bataille de cartes, dont la victoire repose davantage sur le hasard. J'entends déjà des parents s'insurger en pensant que je suis en train de dire qu'il faut épargner les enfants, leur éviter de perdre, de les garder dans un monde de licorne où tout est beau et tout est rose. Mais je te rassure, c'est vraiment pas ça que je suis en train de te dire. Ce que je te dis clairement, c'est que faire jouer un enfant à un jeu qui demande des habiletés qu'il n'a pas encore développées, ben c'est de le mettre dans une situation d'échec sans possibilité de victoire pour lui. C'est un peu comme si je te demandais de construire une maison alors que tu n'as aucune habileté en menuiserie. On s'entend que ça ne serait pas super intéressant pour toi. Tu serais peut-être excité du challenge, mais rapidement, tu découvrirais que tu as des limites où chaque obstacle s'accumule, puis ça contribue à ton découragement et à ton envie de tout vouloir laisser tomber. Donc, c'est un peu ce que ton enfant vit avec un jeu dont il n'a pas les habiletés. Ça viendra, tu sais, il va les développer en temps et lieu. Mais pour l'instant, l'important, c'est qu'il apprenne dans le plaisir. Tu sais, c'est un jeu après tout. Le deuxième point, jeu de stratégie. Le deuxième point, lui, a trait au jeu de stratégie qui demande des connaissances, des compétences, des habiletés, puisque la victoire repose sur la manière de jouer et non pas sur le hasard. Tu sais, toi, si tu es une folle des échecs puis que tu aimerais que ton enfant apprenne à y jouer, ben avant de faire des vraies parties, assure-toi de lui donner des cours pour qu'il apprenne, pour qu'il comprenne le jeu. Et quand tu auras développé des habiletés de base, ben tu pourras faire des vraies parties avec lui. Mais toutefois, comme vous n'êtes pas tous les deux du même niveau, hein, tu sais, en tournoi, là, tu jouerais jamais contre ton enfant ou contre des joueurs qui sont pas de ton niveau. Donc, il est intéressant de penser de te mettre un handicap quand tu vas jouer contre ton enfant. Pour l'exemple de mon jeu d'échecs, ça pourrait être que tu disposes d'un très court laps de temps pour jouer ton tour, alors que ton enfant, lui, va disposer de tout le temps qu'il a besoin pour analyser le jeu. Troisième point, faire comprendre la distinction entre les jeux de hasard et les jeux de stratégie. On a vu les jeux de stratégie et les jeux ludiques basés sur le hasard. Donc, si ton enfant est en âge de comprendre, c'est une bonne idée de lui expliquer qu'il y a une distinction à faire entre les jeux de hasard, comme les jeux de dés, qui requièrent aucune habileté particulière, et des jeux de stratégie où là, la compréhension du jeu puis une bonne stratégie nous permet de gagner. Ça va permettre à ton enfant de comprendre que lorsqu'il perd au serpent et échelle, ben c'est pas nécessairement de sa faute. C'est davantage lié au hasard qui ne l'aura pas favorisé. Le quatrième point, l'attitude gagnante. C'est une bonne idée d'initier nos enfants aux jeux de stratégie en formant des équipes parents-enfants, par exemple. De cette manière, ton enfant n'aura pas l'impression de perdre tout seul et surtout, puisque les enfants apprennent par imitation ton attitude à toi face à la défaite, mais aussi face à la victoire, va être pour lui un modèle à suivre. Donc, c'est important que tu t'observes, que tu sois le modèle que tu veux être pour ton enfant. Est-ce que tu es compétitive? Est-ce que tu es mauvaise perdante? Est-ce que tu es une gagnante prétentieuse ou est-ce que tu es plutôt bon joueur? S'il s'agit de jeux d'adresse comme de la course, ben peut-être tu peux penser de donner une longueur d'avance en fonction de l'âge de l'enfant afin que tout le monde puisse avoir une chance à peu près égale de remporter la victoire. Quand mes enfants étaient petits puis qu'entre eux, ils se compétitionnaient à la course, j'aimais ça créer des catégories d'âge. Tous les deux, ils gagnaient, mais dans leur propre catégorie d'âge. Puis ça s'explique très bien aux enfants parce que même en compétition, que ce soit au soccer, en gymnastique ou au judo, les enfants compétitionnent entre eux selon leur groupe d'âge ou leur niveau d'habileté, comme par exemple une ceinture au judo. On penserait jamais faire compétitionner un judoka de ceinture noire avec un judoka d'une ceinture jaune. Pas plus qu'on laisserait affronter en tournoi de soccer une équipe de 12 ans contre une équipe de 5 ans. Pour moi, c'est pas une question de niveler vers le bas, mais plutôt une question de jouer fair play. Le cinquième point, le laisser gagner ou lui apprendre à perdre? En fait, c'est une excellente question parce que tu veux pas non plus que tes enfants ne fassent que perdre. Ça se comprend. Primo, c'est franchement désagréable de toujours perdre, puis deuxio, ben ils risquent de finir par se décourager et plus vouloir jouer. Alors, si c'est le cas, si ton enfant perd toujours à Uno, par exemple, c'est peut-être parce que le jeu n'est pas adapté à son niveau de développement et de compréhension. Fait que vaut peut-être mieux envisager un autre jeu de table qui sera mieux adapté pour ton enfant. Aussi, même avec les jeux dont la victoire est due au hasard, ben il arrive parfois que, comme le dit, la malchance nous poursuit. Donc, c'est possible que une, deux ou même trois parties de suite, ton enfant se mette à perdre à la bataille de cartes. Peut-être qu'à ce moment-là, tu serais porté de le laisser gagner la prochaine partie. Mais est-ce que tu es vraiment en train d'aider ton enfant? Je te dirais que si ça fait quelques parties de suite que ton enfant perd, c'est peut-être le moment de faire une pause puis de lui expliquer que le plaisir de jouer à des jeux de société, c'est de passer du bon temps en famille et que même si tout le monde aime gagner, c'est intéressant de garder à l'esprit que si on joue ensemble, c'est pas tant pour le résultat final, mais pour le temps qu'on partage ensemble. Aussi, tu sais, il n'y a rien qui oblige à finir toutes les parties. Tu sais, quand ça part en cacahuète, on peut tout simplement arrêter de jouer. J'aimerais ça que tu me dises ce que tu en penses de ce que je te propose ici. Est-ce que ça résonne en toi? Ça fait-tu du sens? Dis-moi ce que tu en penses en venant commenter sur ma page Facebook Karine Trudel Coaching. En résumé. Donc, si je te résume ça en 5 points, le premier point serait de choisir un jeu de société qui soit adapté à l'âge de l'enfant et aussi au niveau de ses compétences. Deuxième point, quand il s'agit d'un jeu d'habileté, pensez à donner un handicap, c'est-à-dire un avantage à l'enfant ou un désavantage à ceux qui ont déjà développé les habiletés. Troisième point, pour les jeux de stratégie, commencez par jouer en équipe parent-enfant. Quatrième point, expliquez la distinction entre les jeux de stratégie et les jeux basés sur le hasard. Et le cinquième point, qui est à mon sens le plus important, c'est qu'on doit, comme parent, adopter soi-même l'attitude du gagnant dans la défaite, mais aussi l'humilité du perdant dans la victoire. On est déjà encore à la fin de cet épisode-là, et comme l'école vient tout juste de reprendre, j'avais envie de te partager comment moi je me suis prise pour éviter que mes enfants fassent semblant d'être malades pour rester à la maison. Donc, dans mon prochain épisode, Maladie ou comédie, motiver son enfant pour l'école, je vais te partager mes meilleurs trucs. En attendant, comme ça prend un village pour élever un enfant, je t'invite à venir nous rejoindre sur le village que je construis quotidiennement avec tout autant de parents bienveillants. C'est en s'entourant de gens qui partagent notre philosophie éducative qu'on peut vraiment, en tant que parent, trouver des stratégies, du soutien et de l'entraide pour continuer d'élever le meilleur en nous, pour pouvoir élever le meilleur de nous. Alors viens nous rejoindre sur le groupe Facebook « Parents à bout de souffle » et viens prendre une bonne bouffée d'air ravigorant. Si tu as aimé le contenu, la meilleure façon de m'encourager à poursuivre la création de ces podcasts-là, c'est de prendre quelques minutes pour aller donner une appréciation de mes podcasts sur ta plateforme de podcast préférée et laisse également un commentaire. N'oublie pas non plus de t'abonner puis de partager parce que, en plus d'être tenu informé de la sortie d'un prochain épisode, bien, tu vas contribuer à faire connaître mon podcast et qui sait, peut-être donner un petit coup de pouce à un parent qui en a vraiment besoin. Alors, merci encore mille fois pour ta précieuse écoute et avec bienveillance, je te dis, n'oublie pas d'élever le meilleur en toi pour élever le meilleur de toi.